Je suis le docteur House, le médecin de votre fils.
Oh, celui que nous ne connaissons pas encore.
Celui qu'il ne connaît pas. Mais comment faites-vous pour le soigner sans le voir?
C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui.
Libre Radio, la radio qui n'en a jamais cure. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes le dimanche 1er juillet, toujours au Tchébar. Le Tchébar se situe à La Chaux-de-Fonds, place du Bois, rue du Collège 23, précisément. Et nous y sommes à l'occasion de la chasse au pavé. C'est un jeu politique 68 heures pour faire la révolution dans les têtes. Et effectivement, plus ou moins arrivé à mi-parcours, pourrait-on dire, du jeu, eh bien, c'est l'affrontement, hein, vraiment les affrontements cruels, tous azimuts entre des étudiants, entre des entrepreneurs, des syndicalistes, etc. etc. Et alors, René Zaslavski, bienvenue à toi.
Merci.
Tu en es le cofondateur de ce jeu.
Voilà, donc avec Gab, on a créé ça en 88. C'était pour un anniversaire, pour une personne qui avait 20 ans en 68 et qui voulait fêter ses 40 ans en jouant ce jeu.
Et alors cette personne était-elle elle-même fonctionnaire ou entrepreneuse, je ne sais pas?
C'était un professeur, un instituteur, disons.
Ouais. D'accord, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même avoir l'idée de ce jeu. Comment ça s'est fait? Vous avez ensemble discuté et puis vous vous êtes dit, tiens, on va peut-être passer justement par ce type de fonction et puis on va essayer de confronter les gens. Voilà, quel est le nerf de la guerre de ce jeu?
Disons que la principale raison de la forme du jeu, en fait, c'était la contrainte qu'on avait. Il fallait que ça puisse se faire pendant un anniversaire, pendant que les gens... continuait de bavarder pendant que les gens d'âge différent, des enfants, des ados, des jeunes, aussi des vieux, des très vieux aussi, ils devaient pouvoir manger en jouant, interrompre la partie, revenir, enfin ça devait être d'une souplesse folle, puis en même temps ça devait être le plus réaliste possible. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce jeu sous la forme de ces cartes, avec en fait une synthèse sur un très grand panneau, un plan de Paris gigantesque qu'on avait mis sur une porte de grange, où les gens pouvaient aller voir en temps réel l'effet des actions, en fait, directement sur la carte, quoi.
Et pourquoi Paris?
Parce que c'était la demande de la personne qui fêtait son anniversaire. Il voulait que ce soit mai 68 à Paris, parce que bon, lui, il était suisse, évidemment. Il avait entendu parler de mai 68 comme les Suisses ont pu entendre parler de mai 68, mais il n'avait pas lui-même participé à ces événements.
D'accord. Et quels ont été les retours des joueuses et des joueurs?
Ça s'est assez bien passé, même très bien pour des gens. Le plus surprenant, c'est qu'on a, sans le vouloir, reproduit exactement ce qui s'est vraiment passé en 68. Donc... à savoir que c'est pas la gauche qui a gagné, c'est pas la droite qui a gagné, mais ça a été l'émergence du centre, en fait. Mmh. Et donc, de ceux qui n'avaient pas beaucoup manifesté réellement. Et on a vraiment... ça a permis de voir que quand on prend les mêmes ingrédients, puis qu'on rejoue une simulation, même pour s'amuser... on arrive au même résultat.
Conclusion, quoi. C'est incroyable quand même. Est-ce que vous avez eu l'occasion de reproduire ce jeu justement en extérieur avec beaucoup de personnes, non, en extérieur, en intérieur, mais je veux dire avec un nombre de personnes conséquent par la suite?
Bon, non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Mais là, il y avait beaucoup de monde. Là, il y avait 75 personnes qui ont joué. Et puis, il y avait aussi des passionnés de jeu, mais il y avait aussi des gens qui n'aiment pas du tout jouer.
D'accord.
Et puis, ça permettait, comme... ce jeu permet d'entrer et de sortir sans trop de dégâts en chemin à quelqu'un qui n'avait pas du tout joué, qui n'aimait pas ça, de dire « Ah ben, je vais juste tirer une carte pour embêter, machin, etc. » Voilà.
Il y a des
donc, se prendre au jeu, quoi, ouais. D'une certaine manière.
Il peut y avoir des importants de passage.
Absolument, oui. Ouais.
Très bien. Dis-moi, René, est-ce que vous vous êtes dit « Pourquoi pas ?» Alors, reproduire ce jeu, enfin en faire une sorte de translation avec des événements liés à des villes mais différents. Je prends un exemple, alors soit on change d'époque et on dirait tiens la commune de Paris, bon même si c'est effectivement lointain, hein, mais pourquoi pas, ou alors la commune de Lyon et là on placerait les événements à Lyon, pourquoi pas, alors l'escalade à Genève, je vois pas trop la portée un petit peu du truc, mais voilà, est-ce que vous avez pensé à changer un peu de ville et d'événements?
Donc on n'y a pas vraiment pensé, mais je pense que ce serait tout à fait et facilement faisable. Hein. On a ensuite Genre, j'ai moi fait d'autres jeux du même genre. Donc, par exemple, on avait pour répondre à une demande d'un enseignant de lycée, reproduit une période du 15e siècle avec une série d'actions, d'activités, et puis ça permettait aux étudiants de se mettre en situation et de voir comment fonctionnaient les choses. C'est sur une semaine, au début de la semaine, ils ont découvert la période, ensuite ils ont fabriqué leurs costumes, et puis finalement on est allé dans un lieu perdu dans la nature, sans électricité, avec pas de chauffage, il fallait faire le feu pour avoir chaud, etc. Et c'est puis génial. On a vraiment reproduit les relations avec le même système de cartes, en fait, un système aussi de cartes comme ça, qui permet de gérer un jeu relativement simplement.
D'accord, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on pourrait dire qu'on commence par une forme de théorie, on explique aux gens, on contextualise, etc. Puis ensuite, on va en immersion une réalité finalement qui reproduit pour ce qu'elle peut faire un événement. Dis-moi, est-ce à dire pour toi que le jeu a cette fonction-là, autant des qualités ludiques que des qualités pédagogiques?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est tout à fait intéressant, mais il faut quand même garder l'idée du ludique. C'est-à-dire que si on essaie de faire trop pédagogique, ça devient moraliste très vite. Enfin, il y a des dangers, quoi. Mais je pense que c'est un bon outil aussi pour apprendre certaines choses, bien sûr. Puis d'accord. Surtout, c'est participatif. Donc, des jeunes gens comme ça qui entrent dans le 15e siècle, en jouant, ils participent vraiment. Ils ne sont pas en train d'écouter quelqu'un, puis au bout d'un moment, on en a marre. Ils sont dans le truc. Donc, ça permet de faire passer certainement certains messages de manière plus plaisante pour les personnes. Ouais.
Alors, on le voit là, ce sont deux exemples que l'on prend, enfin des exemples que l'on prend jusqu'à présent, de jeux qui sont quand même destinés à des plus grands, on pourrait dire des peut-être 8-10 ans. Y en a-t-il des équivalents, ou dément moi, hein, avec plaisir, mais alors, dément moi si tu le souhaites, mais la deuxième volet de la question, c'est selon, y en a-t-il qui seraient destinés à des enfants plus jeunes, qui pourraient doucement entrer justement sur ces pistes-là, qui sont des pistes, comme tu l'as dit, qui doivent rester ludiques et en même temps qui éveillent quand même les consciences?
Bon, il y a toutes sortes de jeux, puis c'est tout à fait possible d'imaginer quelque chose pour des plus jeunes. Hein. Ça peut être d'après un scénario de dessin animé, par exemple, où ils pourraient prendre les rôles des personnages. On pourrait refaire le Roi Lion, par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, en distribuant les personnages, puis en voyant est-ce qu'ils réagissent de la même manière ou non, qu'est-ce qui change, etc. On peut tout imaginer, bien sûr.
Ok. Et dis-moi, lorsque l'on crée un jeu, alors où puise-t-on l'inspiration? Alors là, j'ai bien vu, c'est là un peu mai 68 et la demande. Mais en général, selon toi, voilà, de quoi s'inspire-t-on lorsque l'on est dans cette posture de création de jeu et comment est-ce qu'on le conçoit? C'est quoi les étapes principales?
Bon, les étapes principales, d'abord, c'est il faut s'informer beaucoup, beaucoup sur le thème. Hein. Là, on a beaucoup lu, en fait, sur mai 68, on a regardé tout ce qui était possible. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 88, il n'y avait pas encore Internet, donc c'était un sacré boulot de documentation, de recherche, de compilation de documents, etc. Aussi des émissions de radio, il y avait 2-3 trucs, on a cherché, on a trouvé des choses. Et puis, il faut être le plus réaliste possible dans une simulation de la réalité. Bon, si on simule quelque chose de plus fantaisiste, comme un film d'animation ou comme ça, ben là, on peut être plus dans le rêve et puis dans l'imaginaire. Mais là, on est obligé d'être le plus réaliste possible, puisque donc il faut essayer de... Ensuite, la difficulté, petite difficulté, c'est de trouver des ressorts, c'est-à-dire une carte d'un lieu, plus une manif, plus ça. Il a fallu trouver, en fait, en analysant la situation de mai 68, selon la réalité, comment on synthétise ça, comment on simplifie ça pour faire un jeu de cartes, quoi. Donc c'est un petit peu ça, mais ça c'est des grandes discussions à deux ou à plusieurs.
J'imagine.
Des nuits à l'époque, en fumant beaucoup, pour moi en tout cas. Voilà.
Dis-moi, tu sais que bon, voilà, dans le monde des jeux, actuellement, il y a également une forme de surgissement de jeux coopératifs. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi auquel qui vous habite, l'idée d'un jeu qui puisse être, voilà, dont les ressorts puissent être ceux de la coopération? Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse?
Oui, a priori, moi, beaucoup de choses m'intéressent. Bon, en ce moment, je ne suis plus tellement dans le jeu. Moi, je m'occupe d'un cinéma pour le moment. Donc, en fait, c'est plutôt autre chose. Mais c'est vrai, j'ai eu fait pendant une période de ma vie une série de jeux. Par exemple, je ne sais pas si tu connais le jeu de la banane.
Ah non?
Non. Donc c'est un espèce de jeu un peu comme un Monopoly, mais où les règles sont faussées pour reproduire les inégalités nord-sud. D'accord.
Ah oui. Et donc le tir Monopoly peut-être.
Voilà, ça ressemble à ça.
D'accord.
Voilà,
ok.
Voilà.
Alors ouais. D'accord.
Et donc quand tu joues à ce jeu, en fait, si suivant quel joueur tu es, tu peux pas gagner, quoi.
D'accord.
Mais ce qu'on a constaté si tu fais jouer ce jeu en simulation, donc c'est plus une partie de jeu traditionnelle autour d'une table, mais en action, etc. Par exemple, dans un réfectoire de collège, tu distribues les plats de midi autrement, hein, puis tu fais des plats hyper luxueux, entrée, plat dessert, par un grand cuistot un peu gastronomique de la région. Tu en fais quelques-uns comme ça, puis tu fais une tambouille assez basique et vraiment pas terrible en grande quantité. Et puis tu distribues des cartes à l'entrée, et puis tu reproduis tiers-monde, pays occidentaux. Donc une partie des élèves qui entrent dans le réfectoire vont avoir les cartes pays occidentaux, et puis une très grande partie des gens vont avoir les cartes tiers-monde. Et puis en fonction de ça, ben, ceux qui ont les cartes tiers-monde, ils vont devoir bouffer la bouffe assez insipide, pas terrible. Puis les quelques privilégiés vont pouvoir avoir le menu trois plats gastronomiques. Mais c'est vraiment le repas de la journée, quoi. Et donc tu crées une espèce de situation d'inégalité sociale dans l'assiette, quoi, dans ton réfectoire, quoi. Et tu regardes ce qui se passe. Et puis là, tu vois qu'il y a des personnes qui sont ravies de manger luxueux. Tu as des gens qui mangent luxueux, mais qui sont un peu mal à l'aise parce que les copains n'ont pas droit. Tu as ceux qui aimeraient partager, tu as ceux qui veulent qu'on partage surtout pas. Et puis assez rapidement, tu vois que les gens qui mangent tiers-monde, c'est-à-dire ils se regroupent ensemble, puis ils ont une espèce d'honneur à manger ça contre les autres. Enfin, tu arrives à observer plein de situations. Puis après, tu peux, avec les enseignants qui ont observé la chose, ils peuvent reprendre ça en classe et puis dire, regardez ce qui s'est passé, comment vous avez vécu ça, etc. Puis ça devient assez intéressant.
Ouais, alors ça met en lumière certains mécanismes qui sont de l'ordre de la condition humaine. Et...
absolument.
Ouais, excellent, c'est pas mal ça. Selon toi, les jeux doivent-ils apprendre à gagner ou à savoir perdre? Ou un peu des deux?
Ça dépend des jeux. Hein. Donc, quoi, si tu joues une simulation de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ben, y en a qui doivent perdre, y en a qui vont perdre, y en a qui vont gagner. C'est pas d'ailleurs forcément ceux qui ont vraiment perdu puis qui ont vraiment gagné. Hein, parce que tu peux avoir des aléas, des situations différentes.
Absolument.
Mais c'est évident que si tu arrives à apprendre à quelqu'un à savoir perdre, c'est un bonus que tu peux lui donner.
Absolument. On arrive tout doucement au terme de cet entretien. Il faut qu'on veille à l'heure, nous, quand même, parce qu'il faut qu'on partage l'œuvre. Mais je voulais encore te demander, selon toi, voilà, s'il fallait que je t'interroge sur les vices et les vertus des jeux, en quelques mots-clés, lesquels seraient-ils, ces mots? Alors, bon, peut-être qu'il n'y en a-t-il pas de vice, hein.
Si, non, bah, disons que c'est... Il faut avoir beaucoup de temps.
Fois, c'est le temps de préparation qui est long. C'est le temps de déployer le jeu et d'expliquer les règles. Typiquement, le tir Monopoly, il faut quand même cravacher un petit peu pour expliquer.
Ouais, bon, il y a ça. Mais quand tu les conçois aussi, il faut avoir du temps, quoi.
Ouais.
Donc, le vice, c'est peut-être un peu le stress parce que tu n'as jamais le temps, puis tu n'as pas fini quand il faut, etc. Donc, c'est ce genre de situation. Et puis après, ça prend aussi du temps à participer. Et puis, si le jeu est bien, bah, les gens vont jouer longtemps. Et puis, on est toujours dans cette situation de... C'est dévoreur de temps, quoi. Maintenant, les vertus, bah, peut-être... D'abord, tu passes un bon moment. Tu te fais des amis, hein. Tu rencontres des gens que tu connais peut-être pas du tout, avec lesquels tu peux, au travers du jeu, découvrir leurs facettes, leurs richesses, etc. Et puis, accessoirement, tu peux aussi apprendre quelque chose qui se trouve à l'intérieur du jeu.
Tout à fait. Donc, il y a quand même,
mal de vertus, puis voilà. Pas quelques vices aussi.
Voilà, mais dans le ratio, les vertus triomphent, on peut dire.
Disons ça, oui.
Largement. Écoute, je te remercie beaucoup, René Zaslavski, d'avoir pris ce temps pour nous répondre. Dernière question, s'il fallait que tu conseilles un best-of, tes 5 jeux comme ça, 3 ou 5 jeux vraiment qui t'ont marqué tout au long de ton existence, lesquels seraient-ils ces jeux? Ça peut être des très simples et des très complexes, hein, toi.
Alors, un de mes jeux préférés, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique, genre Donjons et Dragons, mais je ne prendrai pas cette version-là, mais disons, des versions que tu peux améliorer toi-même. Donc, c'est-à-dire un jeu qui se joue autour d'une table, et puis dans l'imaginaire des personnes sur un maître de jeu qui raconte en fait des événements sur lesquels tu peux réagir, et puis ça se passe vraiment dans l'imaginaire, dans la tête et autour d'une table. Ça, c'est un de mes jeux favoris. Ensuite, dans les jeux de diplomatie, ben, y en a un qui s'appelle justement Diplomatie, qui est un jeu de simulation de la Première Guerre mondiale, mais où ça joue sur la diplomatie, c'est-à-dire que tu dois déterminer quelles sont les actions que tu vas faire à la fin du tour, et puis au moment où les actions se font à la fin du tour, en fait, tous les joueurs jouent en même temps, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc si tu avais décidé d'attaquer quelqu'un, par exemple, ton armée elle est en train d'aller l'attaquer, même si tu te rends compte qu'il était cool et puis qu'il ne t'avait pas attaqué, puis que c'était un ami, enfin, etc. Donc ça, c'est un super jeu.
Le jeu, on se fait des ennemis.
Et puis, évidemment, il y a aussi les échecs, parce que ça, c'est un jeu qui reste... Et puis le Go, que j'aime aussi bien.
Le Go, oui.
Il y a des jeux plus traditionnels comme ça. Quoi. Ouais,
très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup. En quelques mots, juste là, également maintenant, donc, tu as quitté un peu le monde du jeu pour le monde du cinéma, as-tu dit.
C'est-à-dire que je suis animateur d'un ciné-club depuis une quinzaine d'années. Et puis, avec l'arrivée du numérique, on a dû numériser la salle de cinéma. Puis, on s'est retrouvé avec une salle numérique extraordinaire dans laquelle on passait que 15 films par an pour le ciné-club. Puis, on s'est dit, mais c'est absurde. Donc on a trouvé les moyens de faire un cinéma permanent. Donc ça se trouve au Locle, ça s'appelle le Casino, et puis on a une programmation à la fois grand public et puis aussi un peu plus pointue. On tourne une semaine sur deux, mais toute l'année. Quoi.
Ok, et là y a-t-il un site internet ou alors un moyen de...
Dis-nous. Donc c'est cinéleLocle.ch, cinéleLocle en un mot. .ch.
Ok, eh bien je te remercie beaucoup et je te souhaite bon courage pour la suite des opérations.
Merci bien.
Merci. Voilà, pour nous aujourd'hui, on en terminera là. Donc on le rappelle, nous étions ici à la Chaux-de-Fonds, précisément au Tché Bar, place du Bois, rue du Collège 23, à l'occasion de la chasse au pavé, un jeu de rôle qui a été proposé aujourd'hui, dont le cofondateur est René Zaslavski. Je veux surtout pas écorcher les prénoms et les noms, bien entendu. Et puis Gab, qui était avec nous et qui a animé le jeu tout au long de cette partie, pour laquelle nous n'arrivons pas au terme, malheureusement. Mais en tout cas, le jeu est extrêmement intéressant. Puis on a vu que c'est un jeu qui permet de discuter, même plus qu'il ne permet, qui encourage, qui invite à la discussion et au partage avec les personnes. Donc, nous étions ici. Nous avons pu également ce matin parler avec un collaborateur scientifique du musée historique de la Chaux-de-Fonds concernant l'exposition temporaire sur mai 68, que l'on invite tous nos auditrices et auditeurs de Genève, de Lausanne et d'ailleurs à aller voir, et puis les sites internet et bien un moteur de recherche et pour cette expo qui aura cours encore un moment ici à la Chaux-de-Fonds. Voilà, nous on rend l'antenne en remerciant toute l'équipe de Fréquence Banane de Genève et de Lausanne et on se retrouve pour nos directs, non pas la semaine prochaine samedi comme habituellement, mais dès mardi a priori pour le festival Chateaubriand, donc à Genève, place de Chateaubriand, ça se trouve au Paquis et on y siégera toute la semaine. Ciao.